Donc nous attaquons aujourd'hui notre série d'études sur le Livre des Rois après l'introduction que nous avions eue. Et on va avoir dans un premier temps, on va s'attarder notamment sur le cas de Salomon, à travers aujourd'hui l'affermissement de son règne et la sagesse de Dieu qui lui a été donnée. Et puis on verra aussi ensuite la construction du temple, on verra aussi à la fois la gloire et puis les errements de Salomon. Et donc aujourd'hui, on a aujourd'hui, on va voir ensemble à travers les quatre premiers chapitres du Livre des Rois, donc l'affermissement de son règne et puis cette question de la sagesse qui est au cœur de sa volonté. J'ai intitulé cela « Vivre et régner par la sagesse de Dieu », puisque c'est aussi ce qui peut nous interroger, nous, sur quelle est cette sagesse de Dieu, comment elle peut nous accompagner. Donc, de manière générale, on va avoir des séquences avec plusieurs chapitres. Donc, évidemment, on ne pourra pas tout lire. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on essaiera de faire un peu un survol de l'ensemble de la section. Et puis ensuite de s'attarder sur certaines parties. Et donc là, typiquement, je vous propose de faire un survol de ces quatre premiers chapitres, et puis après, on lira de manière plus précise le chapitre 3. Je pense qu'on pourra prendre le temps de lecture sur ce chapitre 3. Et donc, peut-être pour avoir ce chapitre 3, cette question de la sagesse, hein, un peu dans ce contexte des quatre premiers versets, je vous propose de faire d'abord un premier survol de ces chapitres, et puis aussi de quel est le thème central et comment ça se relie à un peu notre fil directeur de ce Livre des Rois que nous avait présenté Joël la dernière fois. Donc le thème central, en tout cas ce que je vois moi comme thème central dans ces quatre premiers chapitres, c'est la manière dont le règne de Salomon est affermi, rendu guidé par la sagesse divine. Et donc finalement on voit dans le chapitre 1, je vais y revenir, c'est un peu la survenance de son règne, l'affermissement, j'ai dit défensif parce que de son règne, et puis un aspect plus militaire. Et on verra au chapitre 4, c'est plutôt un affermissement positif et politique du règne de Salomon. Et puis au cœur de ces chapitres, on a le don de la sagesse divine à Salomon avec la demande de Salomon et la réponse de Dieu au chapitre 2, et puis la manière dont est illustrée cette sagesse divine par le jugement sur lequel on reviendra. Vous vous rappelez certainement du thème directeur, puisque c'était il y a 15 jours, et puis en plus on a essayé de vous spoiler sur WhatsApp pour que vous écoutiez le message, que vous re-regardiez les PDF, etc. Et donc j'y reviendrai en fin de session, mais le cœur un peu à travers tout ce livre, c'est de voir comment Dieu est venu intervenir par les rois, par les prophètes, mais in fine, finalement, le seul espoir est Jésus, qui est seul vrai roi, prophète et sacrificateur. Et donc ici, en écho à ce thème directeur, finalement, ce qu'on voit, c'est que Dieu intervient à travers Salomon par la royauté humaine. Lorsqu'elle est dépendante de lui, Dieu peut l'inspirer par sa sagesse, et même si ça n'empêche pas que cette configuration reste fondamentalement imparfaite, et on verra comment Dieu dirige, comment aussi, du coup, cette royauté peut avoir des effets bénéfiques, mais aussi les limites qu'elle a lorsqu'elle est exercée par des hommes. Alors dans ce, si je survole un peu, je vous ai dit au chapitre finalement 1 et 2, c'est un peu la survenance du règne de Salomon et puis son affermissement défensif. Donc on voit dans le chapitre 1, en fait c'est la fin du règne de David, avec des enjeux du coup à la fois politiques et théologiques, parce que le règne de David s'arrête. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a des questions de rivalité, de lutte pour le pouvoir, et puis il y a aussi un sujet théologique. Comment est-ce que Dieu, finalement, va asseoir sa promesse d'une dynastie de David pour l'espoir des peuples et des nations? Et finalement, on voit dans ce premier chapitre de Livre des Rois, si vous l'avez lu très vite, on le voit avec la tentative de complot, pas de complet, pardon, d'Adonija, qui met en lumière ces enjeux. Donc, alors Adonija, qu'est-ce qu'on sait? C'est un des fils de David. Hein, alors, il n'est pas dit beaucoup de choses de lui. On sait qu'il avait eu pendant qu'il était à Hébron, on voit ça dans 2 Samuel 2, hein. Donc il est plus âgé que Salomon, et alors dans ce, on n'a pas grand-chose sur lui, je vous le disais, mais il essaye donc de prendre le pouvoir. On a deux choses qu'on sait sur lui, deux sources peut-être de son orgueil, de sa volonté de pouvoir, sa beauté, hein, il est très beau, et le fait que son père ne l'ait jamais repris, son père ne lui avait jamais adressé un reproche de sa vie, verset 6 du chapitre 1, en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» Et de plus, Adonija a été très beau. Ça, c'est étonnant, c'est verset 2. Voilà, et donc, Adonija trouve le soutien de personnes influentes, en l'occurrence Joab, et puis le chef de l'armée de David, et puis Abiathar. Et il tente de forcer un peu la main à David avant même sa mort pour prendre le pouvoir. Et donc on a la réaction ensuite de Nathan et puis de Bathsheba pour faire accomplir la promesse de Dieu. Donc ça peut-être c'est important de rappeler hein, qui est Salomon et qu'est-ce qu'était cette promesse de Dieu envers lui. Donc Salomon c'est donc fils de David qu'il a eu avec Bathsheba. Donc on voit ça suite à l'histoire écrite dans 2 Samuel 12, hein, notamment, voilà, donc je lis juste, David consola sa femme Bathsheba, il alla vers elle, coucha avec elle, elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon, et que l'Éternel aima. Et il le confia au prophète Nathan, à celui-ci l'appela, j'ai déjà à cause de l'Éternel. Et dans 1 Chronique, on a cette promesse qui est faite, on le voit dans le livre des Chroniques, je lis le verset que vous avez aussi à l'écran, tu auras un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon, voilà son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom, il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Voilà. Il y avait eu cette grande promesse, puis on voit qu'à la fin de son règne, David, je ne sais pas s'il est un peu dépassé aussi, mais en tout cas, voilà, il y a ce complot qui arrive, et finalement, c'est Nathan et puis Bathsheba qui vont rappeler à David que... qui avait cette promesse-là, hein, qui vont la revendiquer. Et du coup, grâce à ça, donc, David va introniser Salomon comme roi. Et donc ça, on le voit au chapitre 32 du premier chapitre. Hein, voilà, David appelle Tsadok, il appelle Nathan, et puis il intronise Salomon vraiment comme roi. Et donc on a ensuite au chapitre 2, dans ce rôle, la passation du pouvoir, en fait, et les demandes de David. Donc David approche du moment de sa mort, il va parler à Salomon, il va introniser Salomon comme roi, et puis il va aussi, transférer ou prolonger à Salomon la promesse de Dieu. Donc ça vaut peut-être le coup de lire ces versets dans le chapitre 2, au verset 3 et 4. Respecte les ordres de l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Donc voilà, David... intronise Salomon, lui rappelant ses commandements et puis cette promesse de fidélité de Dieu. Et puis il lui demande aussi de rendre justice en fait à trois personnes ou familles en fonction de leurs actes passés. Alors les Barzilaïtes qui avaient été bons pour lui, hein, qui demandent d'agir avec bonté et de les accueillir à sa table. Et puis ensuite, et c'est ce qu'on voit du coup dans les dans le chapitre 2, en fait, dans l'ensemble du chapitre 2, j'ai essayé de résumer ici. On a en fait ce que David présente, hein, sur lequel il appelle en fait une justice, une condamnation de Salomon. En l'occurrence, Shimei qui avait maudit David hein, quand il était. On voit ça dans 2 Samuel 16, hein, c'est pendant la fuite de David devant Absalom, et donc Shimei suit David et puis il adresse des malédictions. Mais ensuite, quand ça s'est retourné et que David a repris le pouvoir, bah, Shimei a fait allégeance à David et puis David avait promis de ne pas le mettre à mort. Voilà. Et donc maintenant, au moment de sa mort, David demande à Salomon d'exercer la justice contre Shimei. Et donc, ce que va faire Salomon, c'est qu'il va le contraindre à rester cloîtré dans sa ville, en lui disant de surtout pas en bouger. Et puis, finalement, un jour, longtemps après, apparemment, il va aller chercher des esclaves à lui qui s'étaient enfuis, donc sortir de la ville, donc enfreindre cet ordre, et donc Salomon le fait mettre à mort. Et puis on a un deuxième ami d'Ali qui est Joab. Enfin, Joab avait été le chef de son armée, mais on a une relation compliquée entre David et Joab tout le long, en fait, et notamment David lui reproche d'avoir fait mourir Abner puis Amasa, deux hommes qui à un moment avaient été ennemis de David, mais ensuite avaient fait la paix avec David, et Joab est allé les assassiner à chaque fois, et donc David pour le coup demande à Salomon de faire justice aussi contre Joab qui avait versé le sang dans la période de paix. Et Joab, c'est aussi, il va aussi être dans le complot pour Adonija contre Salomon. Donc il est à la fois un peu, je l'ai classé à la fois dans les ennemis de David et dans les ennemis de Salomon, parce que ce qu'on voit aussi dans le chapitre 3, c'est la façon dont, alors on y reviendra à la lumière de la sagesse divine, dont Samuel gère les cas d'Adonija qui avait voulu prendre le trône, et puis d'Abiatar. Adonija, Salomon va lui laisser une chance, entre guillemets, hein, et puis ensuite on voit en fait au chapitre au verset 19 et suivant, on voit qu'Adonija essaye ensuite de prendre celle qui avait été la dernière concubine de David.
De David, pas de Saül.
Oui. Pardon, excusez-moi. Dernière concubine de David. Et donc du coup en fait Salomon perçoit vraiment ça comme une manière de venir se replacer à nouveau comme roi et en rivalité avec Salomon, et donc là pour le coup le fait mettre à mort, et on y reviendra. Et puis en revanche Abiatar, il le démet de ses fonctions mais il lui laisse la vie sauve. Donc ça c'est tout ce qu'on voit, la façon dont Salomon affermit en fait son règne. Ensuite, mais ça on y reviendra en détail au chapitre 3, c'est le don de la sagesse divine avec la demande de Salomon et puis l'illustration par le jugement. Et puis au chapitre 4, on voit la manière dont Salomon organise son royaume sur un plan politique. Et la conclusion de ces quatre chapitres, c'est ce verset que j'ai remis ici. « Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui était au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. » Donc une situation de paix, de prospérité, suite à l'affermissement de ce trône de Salomon. Donc, je propose maintenant de revenir, parce qu'au cœur justement de ce règne important, hein, puisque voilà, Salomon sera le dernier roi unique, hein, Israël et Juda. Eh bien, il y a toute cette sagesse divine et ce don de la sagesse divine à Dieu. Et donc, je propose de lire du coup le chapitre 3. Donc, Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon, l'installa dans la ville de David, en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là, on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Il offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Et à Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande beauté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté, ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter, pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y en a eu avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Salomon se réveilla et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem, se présenta devant l'arche de l'Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion et il fit un festin pour tous ses serviteurs. Alors, sur ce chapitre et ce don de la sagesse divine à Salomon, le contexte de la demande, je trouve, est presque un peu ambivalent. Hein. Je ne sais pas si vous avez noté. D'abord, il y a ce mariage avec la fille du pharaon. Alors, on reviendra là-dessus, mais on sait que ces débuts de choix de Salomon en matière conjugale qui vont plutôt avoir des effets néfastes ensuite. On y reviendra, mais voilà, c'est mentionné ici et c'est le début de ça. Et puis, on a cette question de la fréquentation des hauts lieux. Donc, les hauts lieux, c'était de montagnes sur lesquelles il y avait des sacrifices qui étaient faits plutôt qu'à Jérusalem. Et qui vont, et dont on va encore entendre beaucoup parler de ces hauts lieux ensuite tout au long du livre des rois, avec beaucoup d'idolâtrie qui sont souvent liées à ces hauts lieux. Et en même temps, je dis ambivalent parce que ici, voilà, on n'avait pas encore construit de maison à l'honneur de l'Éternel. Et puis, en fait, Salomon aime l'Éternel. Et donc, il va sur les hauts lieux offrir ses sacrifices, mais il le fait avec un cœur qui est vraiment un cœur pour Dieu. Et du coup, finalement, Dieu se révèle à Salomon dans ces circonstances-là. Dans des circonstances où ce n'était pas exactement le lieu idéal, dans des circonstances où voilà, peut-être que Salomon ne fait pas là, tous les bons choix. Mais pour autant, Dieu se révèle. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être intéressant de se dire ça aussi. Dieu n'est pas prisonnier des circonstances, de la configuration idéale comme il faut, etc. Si Dieu veut se révéler, il se révèle. Et il n'est pas lié à ça. Il ne s'arrête pas forcément au cadre idéal. Et pourquoi je dis Dieu se révèle? Parce que c'est vraiment Dieu qui prend l'initiative. Et en fait, je ne sais pas si vous avez senti, mais on dit toujours, enfin, Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Et donc, on a toujours cette idée que c'est Salomon qui demande. Et en fait, c'est vraiment Dieu qui prend l'initiative et qui vient lui dire « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon, il était arrivé, il est venu faire ses holocaustes. Alors, les 1000 holocaustes, est-ce que c'est vraiment 1000 ou est-ce que c'est 1000 pour dire beaucoup? Mais en tout cas, ça montre le cœur que Salomon avait. Mais en revanche, Salomon, il a plutôt répondu à Dieu qui lui demandait ce qu'il voulait plutôt que demander lui-même. Donc ça m'a frappé. Parce que voilà, on voit que la prise d'initiative, elle vient de Dieu, et que par rapport à notre thème aussi, on voit combien Dieu, a investi dans cette institution de la royauté. Il a vraiment en fait, il dans cette logique de parler, on y reviendra par anticipation du roi suprême, et il vient en fait vraiment offrir cette possibilité à Salomon. Donc c'est vraiment Dieu qui prend l'initiative. C'est pour ça que je préfère parler du don de la sagesse divine à Salomon que de la demande de la sagesse, puisque on voit que Dieu veut donner. Et par contre, effectivement, ce qui est marquant, c'est la posture de Salomon face à ce que Dieu lui demande. Cette posture, avant même sa demande, moi je trouve qu'il y a des choses qui sont très belles. Voilà, comment il se place? Qu'est-ce qui l'amène à faire cette demande? Première chose, on voit que Salomon, il a vu l'action de Dieu en faveur de son père. Donc, il est attentif, en fait, à ce que Dieu a fait. Il est attentif à la fois au modèle de son père, à David qui marchait en sa présence, dans la fidélité, dans la justice, et ça l'a marqué. Et on voit qu'il veut faire ça. Et puis, il a vu comment Dieu avait été bon pour lui. Donc, première chose qu'on peut se dire, voilà, quelque part, notre état d'esprit devant Dieu... Bah, du coup, il peut être alimenté positivement par le fait qu'on regarde ce que Dieu a fait pour d'autres, qu'on est attentif à ça. Deuxièmement, lui, il s'inscrit vraiment, il sait que c'est la promesse de Dieu. Hein. Tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Donc Salomon, il assume, il a compris que voilà, son rôle-là, Dieu lui avait donné ce rôle-là, et il assume ce rôle-là. Il en est conscient, il l'assume, Et en même temps, donc il est attentif à ça, et en même temps, il a beaucoup, beaucoup d'humilité par rapport à ce rôle que lui a donné Dieu. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux, quoi. C'est-à-dire, l'humilité, c'est pas dire, non, mais j'ai aucun rôle. C'est Dieu m'a donné un rôle, je le sais. Mais par contre, face à ce rôle, et donc là, c'est ce qu'on a vraiment lu, hein, voilà, il a vraiment cette humilité. Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton peuple est immense. Et, donc, il a à la fois conscience de ses limites et de la belle et grande responsabilité que Dieu lui confie. Et je trouve que c'est que Dieu l'a établi sur ton peuple. Voilà. Donc, il a conscience d'être établi par Dieu, mais il a conscience que c'est le peuple de Dieu. Et je pense que c'est vraiment le bon état d'esprit, en fait. J'ai conscience, je prends pleinement conscience de ce que Dieu peut me donner comme chose à faire. Et en même temps, j'ai conscience que face à ce que Dieu me donne à faire, eh ben, waouh, je me sens un peu petit. Et finalement, c'est toute cette posture qui va l'amener à formuler sa demande. C'est ça que je trouve qui est beau. Voilà, sa demande de sagesse, finalement, elle est là. Et alors, sa demande, justement, qu'est-ce qu'il demande ? Est-ce qu'il demande la sagesse ? Ben, c'est pas exactement ça. Alors, ça demande peut-être très bien, mais il y a trois choses, je trouve, et je trouve que ça vaut le coup de les... En tout cas, dans la version que je choisis, je relis le verset 9. « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » Donc, la première chose, c'est qu'il demande un cœur. Donc, il a vraiment conscience que ça part de son être intérieur, de sa volonté, de sa personne. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, il demande un cœur apte à écouter. Dernièrement, j'ai entendu, c'est Tony Blair, je crois, qui parlait sur le pouvoir dans la durée, et il disait en fait, il avait un peu théorisé ça en disant finalement, forcément, quand quelqu'un a le pouvoir pendant longtemps, ce qui tourne toujours mal, c'est qu'à un moment donné, il s'enferme et il est plus capable d'écouter quiconque. Tout parallèle avec l'actualité française est bien entendu complètement fortuit, mais c'était intéressant. Il disait en fait, au bout d'un moment, vous écoutez plus vos conseillers, vous arrivez plus en fait à écouter tous les gens qui viennent vous challenger, vous remettre en question, etc. Et il dit, et c'est ça qui fait qu'à un moment ça dérape d'une manière ou d'une autre. C'était ne plus être capable d'écouter. Et je trouve ça effectivement touchant, mais j'avais jamais fait attention à ça, que ça, la demande de Salomon, c'est donne-moi un cœur apte à écouter. Je trouve ça vraiment fort, quoi. C'est pas donne-moi un super logiciel pour faire les meilleurs choix, quoi. C'est donne-moi un cœur apte à écouter. Et je trouve ça saisissant de, plutôt que de demander quoi dire, il demande savoir écouter. Et ceux qui me connaissent bien seront pas surpris que ça me surprenne. Et peut-être plein d'espoir que ça me parle vraiment, mais voilà, de se dire c'est ça qu'il demande. Un cœur apte à écouter. Et pour distinguer le bien du mal. Donc, il a bien conscience du défi crucial aussi, c'est de juger, de distinguer le bien du mal. Il ne demande pas premièrement à diriger, il ne demande pas à avoir plus de charisme, il ne demande pas de l'éloquence comme l'avait fait Moïse, en tout cas. Il demande de juger, de savoir distinguer le bien et le mal. Et il montre ainsi l'importance qu'il accorde à cela. Et en faisant ça, quelque part, on peut. Enfin, moi, j'ai fait un parallèle avec la chute, avec Adam et Ève. À la chute, en voulant prendre cet arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme voulait prendre l'autonomie, voulait devenir autonome quant au fait de décider, de dire ce qui était bien et ce qui était mal. Quelque part, ici, Salomon, il se replace dans la vraie posture de l'homme, qui est de dire c'est Dieu qui sait ce qui est bien et ce qui est mal, et c'est à lui de m'enseigner ça, et c'est à lui de m'aider à distinguer ça. Donc il se replace vraiment dans cette dépendance de Dieu. Et vous voyez que du coup, on peut dire oui, Salomon demande la sagesse, mais je trouve que, et j'y reviendrai en conclusion, mais ça dépend ce qu'on met derrière sagesse. Moi je trouve qu'on est très loin en tout cas d'une demande de super sagesse pour briller dans son rôle, en fait. Salomon, il pense à son rôle concret pour les autres, sous l'autorité de Dieu. Et il ne prétend pas être en mesure de définir les normes par son raisonnement. Il se dit, je veux pouvoir distinguer humblement le bien et le mal tel que Dieu les voit, tel que Dieu les caractérise, en m'aidant à écouter. C'est ça, la sagesse qu'il demande. Et ça, ça plaît à Dieu. Et ça, ça plaît à Dieu, la façon dont il... Hein, ce beau verset tout court, verset 10, mais cette demande de Salomon plus au Seigneur. C'est, voilà, c'est beau ce terme. Moi, je trouve que ça fait penser hein, un petit peu à ce qu'on lit, toute proportion gardée, mais à l'égard de Jésus plus tard. Voilà, ça lui plaît. Voilà, et donc... on le retrouve pas que seulement à propos de Jésus, mais aussi bien sûr à propos de Jésus. Donc, ça plaît à Dieu. Et alors, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est la reformulation un peu de Dieu, en tout cas la manière dont qu'il est dit, hein, puisque ce que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Donc, vous voyez, de nouveau, il y a bien une finalité qui est pratique. C'est pas juste de l'intelligence tout court. C'est de l'intelligence pour exercer la justice. Et Salomon avait demandé un cœur apte à écouter, et Dieu dit, bah, ça c'est de l'intelligence. Être apte à écouter, c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est pas la course au QI. Et donc, c'est pas non plus, bon, t'avais demandé un cœur, je te donne un cerveau, c'est pas ça. C'est, en fait, juste après, Dieu parle lui-même de cœur sage et intelligent. Hein, je te donne un cœur sage et intelligent. Donc, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'opposition, au contraire, dans la Bible, entre la sagesse, l'intelligence et le cœur. Hein, tout ça est vraiment ensemble. Donc ça, c'est une première chose, je trouve, voilà, et la façon dont Dieu explique ça. Je vais te donner un cœur sage et intelligent. Et ce qui est impressionnant, c'est que du coup, il dit, bah, je vais te donner ça, et du coup, on ne verra jamais personne de pareil à toi. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'en fait, la sagesse de Dieu, elle est incomparable à toute sagesse humaine, en fait. Vous voyez, le fait que l'intelligence humaine soit limitée par rapport à Dieu, on le voit comme ça, parce que Dieu il dit, bah ouais, si c'est moi qui te la donne, bah, elle va pas être comme les autres. Elle va pas être comme les autres. Lorsque Dieu donne une sagesse spéciale, elle est sans comparaison avec les sagesses humaines, je dirais autonomes. Hein. Et voilà, pour faire peut-être un lien, c'est peut-être un peu facile, mais aujourd'hui, on est dans une époque, alors c'est pas nouveau, mais peut-être on pousse ça au paroxysme où l'homme rêve d'être augmenté, hein, où on parle de toutes ces intelligences qui vont nous faire de plus en plus forts, qui vont soit nous dépasser, soit nous rendre extrêmement puissants, on ne sait plus, ces intelligences artificielles, si elles viennent nous dépasser, nous remplacer ou nous faire devenir Dieu, mais dans tous les cas, il y a cette espèce de rêve d'une intelligence humaine qui serait sans limite. Ben, voilà, ce que dit Dieu, c'est qu'on ferait mieux d'investir dans l'intelligence divine. Ça, peut-être que ça ne fabriquerait pas nos exposés tout seuls et nos rapports financiers, mais ça aurait beaucoup plus d'impact positif autour de nous. Et donc, la sagesse donnée par Dieu est incomparable. Et puis, Dieu donne le reste en plus. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. C'était pas une conséquence inévitable. Hein, et moi, je ne le vois pas comme une récompense en plus. Je dis, ah ouais, comme tu as fait une super demande, quand même. Ok, tu as quand même le droit à quelques zéros sur ton compte en banque. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt le voir comme étant l'idée que tu as demandé une sagesse qui vient de moi et du coup, tu vas me glorifier, en fait. Tu vas me glorifier et tu vas me glorifier, du coup, de toutes façons. Et tout ce que tu seras, bah, finalement, ce sera incroyable, ce sera magnifique. C'est peut-être aussi voilà, enfin, une manière de le lire, en tout cas comme un moyen de glorifier aussi ce Salomon qui est le réceptacle hein, de cette sagesse, de cette sagesse divine. Et pour autant, la dimension morale, la dimension de la fidélité, elle est là, elle est bien là. Hein. Le don de la sagesse de Dieu, c'est pas là encore un truc, voilà, tac, je t'ai mis une... Je t'ai mis un composant supplémentaire, là, maintenant, boum, t'as la sagesse divine et ça y est, c'est fait. Il faut rester dans cette marche avec Dieu. La durabilité de cette promesse, la force de vie qui l'accompagne, elle prend ses racines dans le fait de quoi ? De marcher dans ses voies, de respecter ses commandements. Voilà tout ce que Salomon reçoit et les conséquences sont immédiates. Hein. Il revient à Jérusalem, voilà. Il revient à Jérusalem, il se présente devant l'Arche de l'Alliance. Il était parti pour aller sur un haut lieu, là il revient à Jérusalem. Il offre ses holocaustes et puis aussi ses sacrifices de communion. Il est comme si, voilà, on a cette notion de communion qui arrive. Et puis il est joyeux, il partage cette nouvelle, il fait un grand festin avec tous ceux qui sont autour de lui. On voit aussi qu'il ne le garde pas, c'est pas juste un don pour lui là aussi, mais il le partage. Donc vraiment un chapitre merveilleux, un acte fondateur pour Salomon et qui ensuite est illustré par le jugement. Alors on va en lire au moins une partie, peut-être pas tout. Alors je lis au verset 16 de notre chapitre 3. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Et l'une des femmes dit « Pardon, mon seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, j'ai accouché près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Et ce matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Et j'ai regardé attentivement le matin venu, et ce n'est pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. Votre femme dit, c'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Et le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacun. Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi, « Ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le !» Prenant la parole, le roi dit alors, « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et il en éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Alors cette histoire, elle vient instantanément pour consacrer ce que Dieu a donné. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce que Salomon a demandé, c'est une intelligence et c'est une sagesse pratique hein, pour exercer la justice. Et bien tout de suite, on a un cas pratique. Tout de suite, on a un cas pratique. Il va bien s'agir d'exercer la justice dans un cas concret, dans un cas difficile, dans un cas obscur. Dans un cas aussi, vous avez vu, je trouve ça beau aussi, Salomon, il accepte de s'occuper de cas, alors à la fois un peu sordide, et de petites gens, quoi. Hein. Là, c'est deux prostituées, cette histoire assez macabre, un peu improbable. Et puis, mais oui, c'est important. La justice est importante partout, toujours, tout le temps. Tout le temps. Et donc, voilà, c'est ça aussi que ça nous dit, c'est dans les, entre guillemets, petites choses et avec tout le monde que la justice de Dieu, que la sagesse de Dieu doit s'accomplir et peut apporter de la lumière. Salomon avait demandé un cœur apte à écouter, vous avez vu, il écoute. Hein. Alors, c'est résumé, mais on sent que voilà, ça part, ça, et il est là, et il écoute. Donc, C'est dans la vraie vie que Dieu nous attend, c'est dans la vraie vie que la Bible se déploie et c'est dans la vraie vie que Salomon ici agit. On voit aussi, hein, tu nous avais signalé, Joël, l'approche par le récit, elle met aussi de la couleur et on voit, là on a une dramaturgie un peu du récit et qui du coup ensuite va faire éclater cette sagesse de Salomon. Donc on voit tout l'intérêt d'une approche aussi par le récit. Alors dans sa décision, moi il y a une chose... En relisant ça, que je me suis dit, c'est qu'en fait, il n'a pas peur de... Salomon, il prend un risque quand même quant à sa réputation en prenant cette décision. Enfin, sa décision en tout cas apparente, quoi, de couper l'enfant. Parce que si elle avait été suivie, je veux dire, franchement, ça aurait vraiment été considéré certainement comme soit une décision stupide, soit une décision cruelle, soit les deux, je trouve. Donc... Si Salomon fait ça, c'est que, enfin, en tout cas, c'est ma lecture du texte, c'est que vraiment, il a une confiance, il a la foi quant à la promesse de Dieu qui va lui inspirer de la sagesse, en fait. Et donc, dès le début, il dit ça pour dévoiler, mais c'est que du coup, il a la foi. Et je trouve que, voilà, moi, je trouve que quelque part, c'est un risque quelque part de prendre cette décision-là plutôt qu'une décision qui aurait été d'un côté ou de l'autre, mais qui, je dirais, de toute façon, bon, ça aurait peut-être été une erreur de justice, mais bon, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Donc finalement, ça serait passé un peu inaperçu. Tandis qu'en prenant cette décision très bizarre, très improbable, il prend un risque quelque part. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va vraiment distinguer le bien et le mal. Vous voyez, il va dévoiler la vérité. Et ce que je trouve très beau, c'est que comment cette vérité se dévoile ici ? Par l'appel à l'amour, par l'appel à la compassion. Ce qui va dévoiler la justice, c'est l'appel à la compassion. Donc la vérité juridique, elle éclate, mais elle éclate par la manifestation de l'amour ici, de l'amour maternel. Je trouve que c'est aussi un bel éclairage de la façon dont Dieu pratique la justice et fait la justice. Et puis donc, je trouve aussi que dans la façon dont Salomon sonde un peu les cœurs, je sais pas vous, mais moi ça fait un peu penser à Jésus, hein, c'est un peu à ses contre-pieds comme ça, qui mettait ses interlocuteurs face à eux-mêmes, hein, on peut penser à ceux qui allaient lapider la femme adultère, ou au jeune homme bon, ou on a pas mal d'exemples comme ça, où Jésus en fait il vient bam, un peu percuter les choses et du coup aller vraiment sonder les cœurs. Du coup, c'est une parenthèse, mais je trouve assez affligeant que l'expression « jugement de Salomon » qui est restée, elle a plutôt comme sens le fait de couper la poire en deux. Donc en fait, c'est complètement raté. Je me suis dit, mais c'est vraiment idiot ce qu'en fait cette expression. Enfin, le fait que cette expression se soit imposée pour dire ça. Ou peut-être ça montre en creux combien la logique divine est inaccessible à l'homme. Et donc, du coup, quand on regarde, ils prennent le premier degré et ils oublient le deuxième. Alors, plutôt que garder cette expression, ce qu'il faut qu'on garde, nous, hein, c'est plutôt la conclusion, c'est comment on voit comment un pouvoir qui est sage, qui est inspiré par Dieu, eh bien, du coup, il est pleinement capable d'être respecté et d'être honoré. Ce qu'on voit à la fin, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, l'on éprouva de la crainte avec lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Je trouve assez réconfortant et inspirant que voilà, pas besoin d'un homme fort, autocratique, égocentrique pour faire triompher les valeurs chrétiennes. Ça peut être fait par la sagesse qui transpirait de décision. C'est plutôt à ça qu'il faut s'accrocher. Donc ça, chapitre 3, donc au cœur, on a ce don de la sagesse divine. Et puis, je disais peut-être que maintenant, tout à l'heure, je suis rapidement venu sur la façon dont Salomon s'était comporté par rapport aux ennemis de David et les siens. Et donc, peut-être revoir le chapitre 1 et 2, et puis le chapitre 4, c'est-à-dire l'affermissement militaire et l'affermissement politique à la lumière de cette sagesse. Sur l'affermissement militaire, on peut se dire que c'est un peu plus ambivalent quand même. Est-ce que qu'est-ce qu'on tire de ce qui s'est passé ? Alors, je pense que c'est effectivement ambivalent. C'est-à-dire que d'abord, il me semble qu'en tout cas, c'est une proposition. Hein, on peut voir ça d'un point de vue, enfin, on peut l'interroger d'un point de vue moral et l'interroger d'un point de vue prophétique. L'interroger d'un point de vue moral, on voit quand même, je trouve, que Salomon n'a pas le même comportement. Vis-à-vis de ses ennemis que vis-à-vis des ennemis de son père. C'est-à-dire que vis-à-vis de ses ennemis, c'est-à-dire de ceux qui ont fait le complot, je trouve qu'il ne tombe pas dans le jugement systématique, puisque Abiathar, il va le démettre de ses fonctions mais lui laisser la vie. Et Adonija, je pense qu'il lui laisse une réelle chance. C'est-à-dire, il lui dit, voilà, si tu fais le bien, il lui laisse une réelle chance. Et je pense que ce que fait Adonija ensuite, c'est-à-dire en disant, je vais récupérer la concubine de David pour me replacer, c'est vraiment, il montre qu'il est de nouveau dans un principe de contester le pouvoir. Et donc, il me semble, et là, Salomon, pour le coup, et ça va rejoindre, à mon avis, la vision prophétique, le punit à ce moment-là. Mais je trouve que, voilà, par rapport à, il est finalement plus dur avec les ennemis de David, enfin, avec ce que David lui avait demandé d'exercer comme justice, vis-à-vis de Joab et de Shimei, parce que Shimei, on peut penser que, alors, il lui laisse une chance parce que donc il le cantonne dans sa ville, mais finalement il le met à mort parce que manifestement il est sorti quelques heures pour aller chercher des esclaves. On a un peu l'impression que c'est presque un prétexte quelque part. Donc il est finalement plus dur avec les ennemis de David. Donc je trouve que vis-à-vis de ses propres ennemis, et d'ailleurs c'est ce que Dieu lui donne, hein, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Donc je pense que Salomon a quand même eu une relative sagesse, on va y venir, vis-à-vis de ses ennemis, et il est plus dur avec les ennemis de David, et on peut penser, du coup, alors, on peut penser que c'est ambivalent, On peut aussi penser que Salomon se place dans la perspective où il fallait affermir la promesse de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on voit quand même hein, sur Adonijah. Hein, par exemple, lui qui m'a solidement établi, m'a fait asseoir sur le trône de mon père David et qui m'a donné une maison conformément à sa promesse. Et pour Joab aussi, ensuite, hein, le sang d'Abner et d'Amasa donc, retombera pour toujours sur la tête de Joab. En revanche, l'Éternel accordera pour toujours la paix à David, à sa descendance, à sa famille et à son trône. Donc, on peut quand même expliquer par cet aspect prophétique aussi le comportement de Salomon. Pour autant, ce dont ça témoigne quand même, tout ça, c'est que dès que vous avez une royauté humaine, bah, vous avez une violence qui arrive. Et tout cette fin de règne, on se croirait un peu dans une série avec le complot, les vengeances, etc. Quelque part, le pouvoir va aiguiser le complot, le pouvoir va aiguiser les convoitises, le pouvoir va créer les rancœurs, le pouvoir va créer la violence. Même au sein de la royauté prévue par Dieu, on a ça, et là on voit un petit peu ce qu'on disait, que cette institution-là n'est pas suffisante en tant que telle, quand bien même on a, à travers Salomon, un bel exemple, on y reviendra. Alors c'est plus pour l'affermissement politique, donc le chapitre 4, là c'est plus positif. Hein, on voit que dans la manière dont Salomon va déployer son pouvoir, trois choses à noter assez intéressantes. On a plutôt une mise en application de la sagesse de Salomon pour le bien de tous. Hein, on voit que notamment le pouvoir ne va pas dépendre d'un homme seul. On voit qu'il va choisir et organiser une équipe. Donc quelque part, voilà, c'est ce que Dieu lui a donné, c'est aussi cette capacité à choisir, à déléguer, à organiser les tâches. Donc je me suis dit, voilà, que ça pouvait être aussi quelque chose à retenir, que voilà, on a dans nos contextes professionnels, on a toutes ces questions d'organisation, bah, là, on peut avoir besoin de la sagesse de Dieu. Oui, pardon. Donc on peut avoir besoin de la sagesse de Dieu dans nos contextes professionnels. On peut aussi avoir besoin de la sagesse de Dieu, par exemple, pour notre organisation, pour nous relier dans l'Église aussi. Et puis, ce qu'on voit et ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment pour le bienfait de tous. C'est tout le peuple qui profite de ça. Donc, la manière dont Salomon arrive, dont Salomon déploie son pouvoir au chapitre 4, il est vraiment pour le bien de tous. Dernier point, quelques applications, quelques enseignements pour conclure. Et je vais le faire sur deux choses. D'abord, par rapport à notre thème directeur, et puis ensuite pour nous aujourd'hui. Donc, je vous ai remis ici, c'était un extrait du slide de l'introduction, hein, où on avait vu, voilà, sacrificateur, roi, prophète, tout ce que Dieu donnait, et puis tout ce qui a été essayé, et tout ce qui est essayé finalement est insuffisant et a échoué, et Jésus, le vrai sacrificateur, roi et prophète, est le seul espoir. Ben, par rapport à ces thèmes directeurs, qu'est-ce que ça nous dit ici Alors, on est plutôt dans l'aspect positif ici, hein, sur ces quatre premiers chapitres, on a envie d'y croire. Quelque part, on se dit que, excusez ma expression, mais c'est comme si Dieu était allé au bout de cette solution potentielle qui était la royauté, parce qu'il établit Salomon et il lui donne le maximum d'atouts possibles. Et du coup, c'est vrai que on a un peu ces deux choses. C'est que, à la fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la royauté humaine toute seule est fondamentalement impuissante, parce que c'est ce que dit Salomon. Il dit, je ne sais pas faire. Moi, comme roi tout seul, je ne sais pas faire. Donc, il demande à Dieu. Okay. Et par contre, Dieu a pu utiliser cette institution de la royauté en l'inspirant par des hommes qui reconnaissaient leur dépendance pour le bien du peuple. Donc ça, c'est ce que fait Salomon. On voit que quand il y a cette dépendance de Dieu, Dieu peut en partie utiliser cette institution, mais qui reste fragile. Qui reste fragile parce qu'on verra plus tard que Salomon a été sans doute le seul à rechercher à ce point la sagesse divine, et que même chez lui, et on va le voir plus tard, eh bien, même chez lui, on voit là les premiers écueils, les premiers risques qui vont se cristalliser. Donc même chez le candidat le plus parfait, les choses vont déraper. Et puis ce que je disais aussi tout à l'heure, on voit que même si c'est inspiré par Dieu, vous voyez, toutes ces rivalités de pouvoir et de violence, font qu'on perçoit que cette institution-là si elle n'est qu'humaine, va être insuffisante à garantir la marche de l'homme avec Dieu et pour Dieu. Et puis trois applications ou trois choses que moi je retiens. On avait dit aussi pendant l'introduction, hein, tu nous avais encouragé à dire on peut regarder ça d'un point de vue théologique, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu, christologique, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus, et puis morale, qu'est-ce qu'on en tire pour notre vie. Donc je vous propose de garder trois choses pour terminer là-dessus. Sur Dieu d'abord. Ben, sur Dieu, on revoit que Dieu est souverain, hein, on voit que c'est Dieu qui établit les rois. C'est Dieu qui inspire les rois quand ils ont l'humilité de reconnaître que le pouvoir ne leur appartient pas. C'est Dieu qui fait échouer le complot d'Adonija. Ça devait être Salomon, c'est Salomon qui est là. Donc on a la souveraineté de Dieu qui s'applique. Et puis Dieu est sage. Dieu est sage. Peut-être que c'est un caractère de Dieu dont on parle un petit peu moins souvent que l'amour ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est intéressant de faire ça. Et je trouve qu'on a tellement besoin de cette vertu aujourd'hui. Je veux pas dire qu'on est dans un environnement aujourd'hui où tout est forcément mauvais, c'est pas ça, mais je trouve que tout le monde a tellement de mal à trouver, enfin, il me semble, les conditions d'une pensée qui soit dégagée des pulsions, des opinions, cette idée que voilà, Dieu est sage, que cette sagesse, c'est avoir à cœur de distinguer le bien et le mal plutôt que de faire triompher une opinion, en fait, eh bien, il me semble qu'on a du mal à faire ça collectivement aujourd'hui, bah, tournons-nous d'autant plus vers Dieu parce que Dieu offre cela. Ça nous dit quelque chose aussi un peu en creux de Jésus. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit rapidement, mais même dans cette configuration idéale, les choses vont à terme se gâter et ça pointe vers ce roi pleinement sage. Et il y a Matthieu le dit, hein, chapitre 12, hein, lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Dans Luc 7, il est dit « La sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. » Et Jésus aussi, là on a... Hein, Jésus, il a eu cette sagesse quand il était enfant. Dans Luc 2, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Dans Marc 6, il y a aussi quand il enseigne dans le sabbat. Et puis, tous les gens arrivent, sont étonnés. D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Vous voyez que le fait là de pointer chez Salomon l'importance de cette sagesse, ça nous fait penser à Jésus qui a eu cette sagesse aussi et qui lui a fait plus, évidemment, parce qu'il n'a pas seulement montré, témoigné la sagesse de Dieu, mais il nous a aussi associé à sa sagesse. Dans 1 Corinthiens, hein, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Et puis, terminer juste pour quelle application pour nous, moi, je me suis gardé deux choses. D'abord, l'idée qu'on peut demander de la sagesse à Dieu. C'est un peu bête, mais en fait, ouais, on peut demander de la sagesse à Dieu. Peut-être que des fois, on se dit, face à nos choix, on se dit, bon, alors là, il faut que je fasse ce que Dieu veut, là. Il faut que je fasse ce qui plaît à Dieu. Et en fait, comme si c'était déjà là, on le savait, mais maintenant, il faut le faire. Donc, il faut se battre, il faut le faire. Et là, en fait, Salomon va un cran plus loin. Il demande de la sagesse pour discerner. Et je pense qu'on a tellement besoin de ça aussi, de se dire, c'est pas seulement qu'on fait pas ce qu'on voudrait faire, c'est que sans doute, des fois, on sait pas ce qu'il faut faire ou on se trompe dans ce qu'il faut faire. Donc, on peut demander. Et Paul dit aux Éphésiens, je prie pour qu'il vous donne un esprit de sagesse. Voilà, on peut le demander pour nous, prier pour les autres. Bon, par contre, pour les bonnes raisons, hein, parce que la sagesse qu'on demande à Dieu, ça sera de la... Ça sera justement la vraie sagesse. Et donc, je vais terminer là-dessus parce que moi, ce que je trouve, ce qui m'a frappé quand même, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je vais y revenir, c'est qu'est-ce que c'est que cette sagesse selon Dieu ? Et elle est trois choses. Elle est morale, parce qu'elle distingue le bien du mal. Elle est pratique, parce qu'elle s'exerce. Et elle est altruiste, parce qu'elle sait, elle est pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Et du coup, si vous faites ça en creux, moi, ça m'a pas mal repris sur la fausse sagesse. Si elle est morale, ça veut dire qu'elle n'est pas amorale. Vous savez, moi, la sagesse, c'est un peu... J'arrive à comprendre, j'arrive à expliquer. Du coup, non, la morale, c'est pas vraiment de la sagesse. C'est bien, c'est mal, voilà, c'est un peu... Voilà. La vraie sagesse, on se met au-dessus de ça et on comprend, mais je ne juge pas, quoi. Je suis au-delà de ça, ok ? Et quelque part, voilà, peut-être que le relativisme ou juste le fait de dire ne pas se prononcer, ça peut sembler plus valorisant, plus intelligent, plus sage. Mais en fait, là, ce n'est pas ça. La sagesse de Dieu, elle est vraiment morale. Et moi, je me dis, voilà, et je vous laisse ça à cœur, est-ce qu'on a suffisamment à cœur de distinguer le bien et du mal, en fait ? Bon, c'est aussi bête que ça, mais je trouve que c'est quelque chose qui m'a frappé. Donc, cette sagesse aussi, si elle est pratique, c'est qu'elle n'est pas juste intellectuelle. Ça veut dire que la sagesse, ce n'est pas de se réfugier dans des concepts sans les confronter aux décisions pratiques. Et si elle est pour le bien des autres, ça veut dire qu'elle n'est pas pour mon bien à moi, ça veut dire qu'elle ne s'exerce pas pour ma petite gloire ou ma petite vanité, pas seulement d'ailleurs une gloire extérieure, mais même pour soi, hein. On peut se dire, ah bah, putain, je suis sage, j'ai l'impression de bien comprendre les choses, de bien peser pour et contre, etc. Je me sens intelligent, quoi. Bah non, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. C'est, est-ce que tu fais du bien aux autres en exerçant pratiquement ce que Dieu t'a donné comme capacité de justice. Donc, voilà, une sagesse morale, pratique, altruiste, et du coup, moi, je me suis senti particulièrement repris par cela, parce que je me dis que, du coup, de rechercher cela, de demander cela à Dieu, ça nous dit plein de choses du coup derrière sur comment on doit décliner ces choix-là. Et donc, bah, voilà. En tout cas, je pense qu'on peut peut-être chacun, pour terminer, se dire, penser où est-ce qu'on a besoin de sagesse, voilà, vraiment pratiquement, et s'encourager à se dire que Dieu peut nous donner cette sagesse-là, comme il l'a donné à Salomon. Pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui sont autour de nous.